Donc nous avons vu les 10 films qui nous ont marqués, mais bien sûr d'un point de vue individuel, à la fois pour tous les gens présents autour de cette table et certainement pour les gens qui nous écoutent, il y a forcément des oublis, des éléments sur lesquels les gens vous n'êtes pas d'accord, comme on a pu l'entendre à certains moments. Est-ce que pour vous, là je regarde toute l'assemblée, il y a un film qui a été particulièrement oublié dans ce top 10? Elias.
Moi, il y a un film qui est mon troisième film de mon top 10 et que je pense que personne n'a mis dans son top sauf Victor en 10e position, qui est 100 Yen Love, 100 Yen Love, et en japonais,
ouais,
Ah, ok, bah, merci beaucoup.
Qui est en fait, pour...
merci beaucoup.
Tu
veux
toucher de l'argent ou...
Non, pas du tout, mais en fait, ce film vraiment.
Bah, 100 Yen à chaque fois, en fait.
Ah, exactement, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et qui est pour moi, en fait, le meilleur film de Kino Taiyo. Et je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, nouveau, japonais. Et je sais que c'est un film qui en soi n'a rien de spécial. C'est pas un grand film dont on pourrait parler, par exemple, de Norte ou de Century Splendor. Je pense que c'est pas un film épique, c'est pas un film finalement plus intéressant qu'un autre. Mais je trouve que c'est un film très juste et qui touche au plus. Enfin, touche profondément qu'un film juste qui rend heureux. Enfin, c'est un film de loser magnifique et c'est un film de gens qui ont la lose mais qui sont quand même contents et qui arrivent à leur but.
C'est un remake de Little Miss Sunshine.
Exactement. Non, du tout.
Mais c'est quand même beaucoup mieux que Little Miss Sunshine.
Ouais, bah, c'est pour ça,
et plus ambigu d'ailleurs. On en avait parlé.
Et puis surtout, c'est pas que ça, parce que c'est un film qui a beaucoup de nuances. C'est un film qui a beaucoup. Pour moi, t'as quelle actrice. Il y a une scène qui est absolument incroyable. C'est pourtant une scène qui est très difficilement justifiable, d'ailleurs même le réel n'a pas justifié la scène. C'est quand t'as une scène qui passe d'un coup de scène extrêmement drôle, de restaurant où tout le monde se marre et t'as un personnage qui est super drôle, qui est totalement lourd, etc., et qui passe en 30 secondes dans une scène de viol absolument affreuse.
Il y a une scène de viol, il n'y a pas ça dans l'intimité.
Qui est absolument affreuse. Et pour moi, genre, ce film, en fait, c'est peut-être un des films les plus. Enfin, je trouve que c'est un film qui vraiment touche les émotions du spectateur directement, et c'est ce qu'il a fait. Il te rend d'un coup content, puis ensuite triste, puis content pour l'actrice, puis ensuite choqué. Et je trouve qu'il y a assez peu de films qui font ça actuellement aussi bien. Et donc, pour moi, c'est un film qui est très efficace, et c'est un film préféré de l'année, qu'on n'a pas parlé pour la première partie.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est un film qui reflète un peu le cinéma du milieu japonais, dont on a une visibilité quasi nulle, à part de quelques films qui nous arrivent.
Et qui est envoyé aussi aux Oscars par le Japon.
Voilà, au milieu du cinéma japonais, donc c'est aussi intéressant de le mettre en avant à Kino Taiyo. Il n'a pas été sélectionné aux Oscars, malheureusement, donc malheureusement, c'est pas très étonnant, finalement.
C'est
un film indépendant. Alors moi je suis étonné parce que on n'a pas du tout parlé de Hong Sung-soo.
Je l'ai pas vu. Un jour après, c'est ça. Un jour sans, un jour avec, c'est
non,
ça.
Un jour avec, un jour sans.
Alors ici en février prochain. Donc on en aura pour le.
En 2015, il y en avait eu un autre.
Et il y avait Hill of Freedom.
Donc on avait parlé.
Mais il était en quelque sorte, j'ai l'impression.
Pas dans le mien.
Enfin, moi, c'est un jour sans qui était dans mon top. Bon, effectivement, le film a été projeté au festival coréen et il sort en février, mais c'est un petit bijou, quoi. C'est sublime. Moi, pour l'instant, c'était Sun Yi qui était mon préféré d'Hong Sang-soo. Et j'ai l'impression que un jour avec, un jour sans, il talonne vraiment beaucoup, voire égal Sun Yi. Puisque dans ce film-là, qui est un film en deux parties, qui raconte toujours, comme dans les films d'Hong Sang-soo, une histoire d'amour entre un homme et une femme, type souvent égocentrique, un peu puant, et puis qui fait du cinéma, forcément. Et là, du coup, le film est séparé en deux parties, c'est deux fois la même histoire, mais avec le personnage principal qui a une personnalité complètement différente et qui donne à montrer finalement deux facettes de Hong Sang-soo. Et dans la première partie du film, Hong Sang-soo fait du Hong Sang-soo, mais en même temps en faisant une dérision totale de son cinéma et des personnages qu'il met en scène dans la plupart de ses films. Voilà, c'est un petit peu parodique, et on sent qu'il se moque un peu de lui, mais qu'il se moque aussi des personnes qui se moquent de lui en rajoutant vraiment une couche sur je fais du 110% Hong Sang-soo exprès pour emmerder les haters. Et pour faire plaisir, en fait, c'est du méta Hong Sang-soo, quoi. Et le film, c'est un petit bijou, quoi. Superbe.
Absolument, pour l'instant, c'est mon meilleur film de 2016 d'ailleurs, comme il va sortir en 2016.
Oui, je voulais rajouter sur Hong Sang-soo. On compare souvent Hong Sang-soo à Romer, mais pour le coup, il est plus proche de René pour le jeu avec
Romer,
etc. Et aussi, je pense que c'est, en Corée, c'est lui le meilleur pour filmer les actrices, en fait. Pour rendre la
mais parce qu'il est, il est amoureux de toutes ces actrices.
Voilà, voilà. La beauté des actrices, c'est tout, hein. C'est le meilleur.
Je le dis de autant que je le pense. Hein.
Et le film a d'ailleurs pas mal fonctionné en Corée, puisqu'il a fait, entre, il a fait 80 000 entrées, je crois, ou 70 000 entrées en Corée, ce qui est un de ses records.
Un blockbuster.
Voilà. Wow. Que, par exemple, le film avec Isabelle Huppert, ça avait fait 20 000 ou 30 000 entrées en Corée. Donc,
mais d'ailleurs, le film avec Isabelle Huppert, est, j'ai pas vu Un jour avec, Un jour sans. Je pense que j'adore déjà, son film avec Isabelle Huppert, ça semble être un peu dans le même style.
Pas vraiment,
non.
Ce
film-là est quand même un peu particulier.
Le côté méta, tu le retrouvais un peu dans Sony, justement.
Oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé
Sony. On pouvait assimiler les prétendants de Sony à la vision que les gens ont de Hong Sang-soo, de son cinéma, etc. Donc c'est assez intéressant.
Et il revient à quelque chose de beaucoup plus cruel qu'il y avait dans Les Femmes de mes amis, par exemple, avec effectivement cette satire du milieu cinématographique, ce personnage qui est complètement détestable, et cette transition entre une première partie où on trouve un personnage de cinéaste détestable et une deuxième partie où, avec les mêmes situations, le personnage est complètement naïf et complètement honnête. C'est quelque chose qu'il utilise par des moyens cinématographiques, c'est ça qui est très intéressant. Et notamment une utilisation de la voix off qu'on trouve dans la première partie et qui montre en fait l'hypocrisie du personnage. Mmh. On a accès à ses pensées à travers une voix off dans la première partie et on voit que ses actions sont en totale opposition avec ce qui nous est dit. Dans la deuxième partie, il montre la même chose, il supprime la voix off par exemple. Et en fait, le spectateur a une interprétation complètement différente de ce qu'on a vu dans la première partie. Donc il y a un jeu de miroir et de regard qui est extrêmement intéressant par rapport à l'œil du spectateur. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est un des meilleurs Hong Sang-soo, et certainement sont plus maîtrisés, sont plus brillants, à condition effectivement d'aimer son cinéma et de connaître les codes avec lesquels il est en train de jouer et de parodier, parce que sinon ça ne peut pas marcher, justement ce côté méta n'est pas forcément accessible.
Tout à fait.
C'est gênant ça par contre.
Enfin, ceci dit, je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu un film de Hong Sang-soo peut le regarder et trouver ça très bien.
Je trouve pas que ce soit un cinéma ennuyant.
Il y a
toujours une dynamique.
La vierge j'ai mise.
Ah oui, d'accord.
Objectivement, je ne me suis pas endormie quand j'ai regardé Un jour avec, Un jour sans. J'ai passé un moment sympa. Donc non, il n'est pas en...
Si on aime l'alcool, si on aime les filles en général.
Et on parlait des dialoguistes tout à l'heure, Hong Sang-soo est un très bon dialoguiste.
Il y a une dynamique, il y a quelque chose dans les scènes, tu t'ennuies pas.
Il y a de l'alcool.
Concernant l'ennui, en fait, on peut plus vraiment trouver ça comme excuse. Maintenant, ces films durent tous une heure, même moins.
Comme ça, ça veut rien dire.
C'est vrai que il dure une heure là.
Celui-ci dure 2 heures, mais il y a deux films. Donc, il y a deux parties d'une heure.
C'est Hill of Freedom qui dure 70 minutes.
Mais c'est deux films, c'est-à-dire deux.
Le film est coupé en deux, le générique réapparaît au milieu, et en fait, on revoit le même film dans une deuxième partie avec exactement les mêmes situations.
En fait, t'en as un qui s'appelle Un jour avec.
Voilà, c'est un film.
Est-ce que les deux films sont différents parce qu'il y a eu une chose qui est différente dans les deux films?
Dans la mise en scène, tout est différent. Les plans choisis changent complètement la signification des scènes, alors que c'est exactement ils placent exactement à peu près la même chose au niveau de l'action.
En fait, il interroge le regard du spectateur. Je vais prendre un exemple.
C'est René.
Très rapide. Dans la première scène, il se retrouve.
C'est aussi un autre cinéaste. C'est pour ça que je posais la question. Après, je te dirai.
Dans la première scène, il se retrouve dans un temple. On voit que il me semble que le personnage féminin a un sac et qu'elle donne au personnage masculin. Et le personnage masculin regarde ce qu'il y a dans le sac. Dans la première partie, le personnage féminin ne dit rien. Le spectateur, lui, qui regarde la première partie, voit que le personnage masculin a regardé dans le sac. Deuxième partie, il fait la même chose. Et le personnage féminin dit au personnage masculin, mais pourquoi est-ce que tu regardes dans le sac? Voilà, c'est-à-dire qu'elle met en interrogation le regard de ce qu'a vu le spectateur dans la première partie. C'est comme si les personnages eux-mêmes étaient conscients, en fait, qu'on est dans un film miroir par rapport
à... À un degré moindre, il y a le film de Kiesowski, qui s'appelle Le Hasard. Qui avait été fait dans les années 80, c'était le film tournait autour d'une femme, soit elle prend le train, soit elle ne prend pas
absolument.
Le train.
Absolument. On est et tout à fait chez dans le hasard
ludique.
De Kieslowski,
dans
Smoking No Smoking d'Alain René. C'est-à-dire,
c'est ça, en fait, le film.
Le film d'Aung San-Suu, oui, comme tu le dis.
Voilà. Un film d'Aung San-Suu, c'est très ludique, toujours, ouais. Cette dimension-là. Mais...
Peut-être les premiers films quand la Vierge voilà. Nous donne. Parce qu'après, c'est différent.
C'est un peu plus austère.
Hein. J'ai bouquin, moi, du coup.
Faut continuer, mec.
Après, c'est léger.
C'est
tellement différent de la Vierge Nous Sang-Sou.
J'ai toujours un ou deux films au Sang-Sou.
Après, c'est léger, c'est ludique.
De toute façon, ce genre de film-là, c'est très drôle.
C'est super drôle. Moi, je pleure de rire.
Nicolas. Typiquement, le genre de film qu'il faut montrer à des étudiants en cinéma, par exemple. Quand tu fais un cours de. C'est typiquement ce genre de film qu'il faut montrer aux étudiants en cinéma quand tu fais un cours de signification. De la mise en scène. C'est exactement la base en fait de choix de plan, de choix de montage, de choix de point de vue qu'il faut montrer aux jeunes cinéastes aujourd'hui pour leur montrer voilà, pourquoi ce plan-là, pourquoi t'es pas d'accord avec moi, Martin,
non, mais... Mais... Moi je suis d'accord parce que ma réflexion c'était que c'était aimé par soit les étudiants en cinéma, soit par les anciens pour faire des cours en fait.
Alors une réflexion qu'on peut se faire quand on regarde notre top 10, les films dont on parle depuis, c'est qu'il y a une domination tout de même des sorties en France et en salle du cinéma d'auteur. On a parlé d'Aung San-Suu, on aurait pu parler de Kurosawa, il y a eu Vers l'autre rive qui est sorti cette année, de Naomi Kawase, de Wong Chao et de pratiquement tous les cinéastes qui sont là, Kore-eda, Uera Setakul, Wang Bing. Diaz, Jiazhangke,
Sokurov,
Sokurov effectivement était pas là. Alors son notion n'est pas distribuée, donc c'est
un
problème un peu différent. Mais ça peut être un peu problématique d'avoir cette fenêtre unique sur le cinéma asiatique, qui est qu'on attend un certain cinéma pour un public un petit peu initié, et finalement les distributeurs ne vont sortir que ces grands auteurs.
Il y a eu aussi un film justement qui est pas d'un grand auteur et du cinéma asiatique, enfin du Kazakhstan, je crois. C'est Le Souffle de Alexander Kott, qui est un film hyper beau, sans dialogue, où des deux jeunes fermiers ont une histoire d'amour dans une espèce de plaine vide du Kazakhstan.
Putain, c'est Sundance là.
Et justement, tout le film joue sur le fait que. À la fin, il y a le souffle, ce qui veut dire les essais atomiques et ils se font atomiser.
Ça a plusieurs significations d'ailleurs.
Spoiler à bloc. Ah ouais,
un peu. Oui, mais ça,
depuis le début.
Grand film, je verrais pas
celui-là. C'est intéressant ce film. C'est intéressant que tu en parles. D'ailleurs, c'est bizarre que j'aurais pu le mettre dans mon top.
Moi, il était dans mon top.
Mais on reste tout de même avec ce film sur un cinéma kazakh, indépendant, d'auteur, qui est peu vu dans les pays.
Après, le cinéma grand public asiatique, je pense pas. Je pense pas que ça intéresse le public occidental.
C'est pour le marché intérieur.
Est-ce que la famille Bélier intéresse le cinéma japonais?
Oui, on pourrait.
Alors déjà, calmez-vous. On se détend.
Alors,
et deuxièmement, là, ça m'a... Ouais,
juste un petit point d'Elias sur la famille Bélier.
Alors, la famille Bélier, pour que je fasse box-office, il est arrivé 11e, donc pas dans le top 10, mais juste en dessous, j'ai quand même pu voir, en Corée du Sud. Figure-toi que la famille Bélier est un succès. Était second dans la catégorie film d'auteur.
Richard Sardou très populaire là-bas aussi, peut-être.
Et donc, Rémi Bélier était donc 11e.
Après, voilà, le cinéma
coréen.
Il y a plein de grandes comédies françaises qui marchent très fort. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Alors, pourquoi on n'a pas le.
Parce que nous, c'est le public français qui a abreuvé. Voilà, qui bouffe du Marvel et qui bouffe du Disney et qui bouffe voilà.
Mais les distributeurs étrangers ne proposent pas non plus hein.
Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas les mauvais films les japonais?
Parce que les Chinois, les Coréens ont aussi du Marvel et ont aussi les blockbusters.
Mais pas oui, mais parce que nous, on pas l'inverse, c'est quoi c'est pas nous de notre côté, c'est pas pareil.
Le scato des Japonais, enfin, ça pourra jamais marcher en France.
L'humour n'est pas oui, non mais c'est vrai, l'humour n'est pas le même. Les codes sont pas les mêmes.
De Kitano qui se rapproche plus de ce qu'il fait à la télé, ça fera des bides en France. Mais ça a fait des bides.
Getting Annie,
ça a été une catastrophe.
Oui, mais les
et pas forcément le pire.
Le Seuil qui a fait un flop.
Voilà, enfin, ça c'est un exemple. La bataille de la montagne du Tigre, ça fait 20 000 entrées. J'ai vu un classement des.
Les 20 films les moins rentables en France.
C'est-à-dire au nombre de spectateurs par salle. Et il était
deuxième.
Donc c'est quand même. Mais même les deux derniers détectives.
Mais c'est triste à dire. Mais les Occidentaux, nous les Français en tout cas, quand ils voient un film asiatique, ils ils sont pas habitués à ce genre de prod, quoi. Donc ça les fait marrer, je sais pas, mais
les films,
ils vont pas le voir.
Ils vont pas le voir. Miyazaki.
Les films d'horreur
philippins. Miyazaki, c'est particulier.
D'horreur philippin qui semble, enfin, je crois, marcher.
En DVD, si.
En DVD, exactement ici en DVD.
Enfin, alors c'est fini, hein.
c'est terminé, dans
ce marché-là, effectivement, les ventes de DTV, c'est-à-dire des films asiatiques qui uniquement en vidéo, c'est un marché qui est mort. Il y a plus rien. Tous les films qui sont sortis cette année ont quasiment rien fait. C'est un marché qui est un peu moribond depuis 2-3 ans, et là on a eu la confirmation.
Attends, ils ont inventé le e-cinéma là pour de notre
mais c'est un
chose que qui va te rester.
Le e-cinéma ne sert à rien du tout.
Le cinéma qui fait du fric dans chacune des régions qui ne sont pas les nôtres ne fonctionne pas forcément ici, quoi. Enfin, donc, voilà.
Mais c'est marrant.
On va plutôt privilégier effectivement des cinéastes qui ont une vision un peu plus universelle du cinéma, enfin de leur cinéma en tout cas. Et puis après, je pense que c'est une question de financement. Enfin, sur le fait que le cinéma français finance énormément le cinéma étranger.
Non, moi j'aimerais ce que je voulais dire, c'était sur les blockbusters surtout japonais. En fait la France est genre le deuxième pays de consommateur de manga après le Japon, et on a carrément aucun blockbuster japonais qui sort pratiquement que des adaptations de manga. On en parlait là.
C'est ça, est-ce que il y a eu des tentatives, on a essayé de sortir Death Note, il y a eu des films comme ça qui sont sortis, est-ce que sortir l'Attaque des Titans ça aurait un sens?
Le film a vraiment très mauvaise presse. Hein, donc,
Le film est pas mal.
Merci. Je voulais répondre à la question de Samir quand même, parce que là on est en train de repartir vers un autre sujet. Pourquoi nos comédies à nous peuvent fonctionner à l'étranger et pourquoi pas les comédies japonaises et coréennes?
Une question d'ouverture peut-être aussi.
Il y a ça. Quand je posais la question, c'est que j'avais peut-être aussi une partie de réponse. Et même si je ne détiens pas la vérité, pas de souci. Je regarde pas vraiment les comédies françaises, donc je peux pas vraiment savoir en fait si elles sont universelles ou pas. Ce que je sais, c'est que quand je regarde une comédie japonaise ou coréenne, il y a les 8 films sur 10 où je comprends pas pourquoi c'est drôle. Mais vraiment pas.
Il y a des comédies françaises.
Enfin, oui, ben pas. Oui, moi non plus.
C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout.
Il paraît que pour plein de gens, ça me plaît en fait. je pense que les codes sont vraiment très très différents. Et peut-être que les Asiatiques sont plus ouverts à la culture occidentale qu'on ne l'est à la culture asiatique, en fait.
Pas tout à fait, puisque tu vois, par exemple, le marché cinématographique coréen, je crois que cette année, c'est 60% de films coréens qui sont distribués en Corée et 40% le reste. En France, c'est 30% de films français, je crois, et à 70% de films étrangers.
C'est ce que je disais, on a brevet des blockbusters américains, et donc dès qu'on voit quelque chose de différent, il y a un rejet. Quoi.
Ouais. Et en Corée, ils ont un système des quotas qui permet aussi de protéger le...
Mais un peu moins depuis quelques années.
Mais ils résistent encore parce qu'ils ont quand même...
C'est pas plus mal, ouais.
C'est pas plus mal, et puis bon, c'est vrai que les Américains ont poussé pour essayer de foutre leur blockbuster sur les écrans, mais ils ont un cinéma populaire super fort, les Coréens. Les deux blockbusters de l'année, que ce soit Assassination ou Vétéran, ce sont des bons films. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, les acteurs sont bons. Non, mais en France, on n'arrive pas.
La prod est soignée, quoi.
Quand tu vois en Corée les 10 films qui ont été les plus regardés, je crois qu'il y a à peu près 15 films qui ont dépassé les 5 millions d'entrées en Corée, et dans la liste, on a juste 2 films américains, 2 blockbusters. Ouais. Sinon, c'est que des productions
coréennes. Là, les films français qui font des entrées, c'est quoi? C'est Aladdin, Les Profs, voilà.
Ouais. Après, il y a aussi un problème de distribution. On parlait du Tsui Arc. Honnêtement, qui ici a vu une bande-annonce en salle ou même plus de 2-3 affiches dans Paris?
Rien.
Moi, j'ai vu.
Donc,
j'ai vu les affiches. C'est parce que je bossais à la BNF et que je passais tout le temps devant le MK.
Mais sinon, à part ça, on sait pas que c'est...
Faut savoir, c'est que dans les multiplex, soit Gaumont ou GC, à chaque fois, avant les films, t'as toujours les bandes-annonces, ils te font un petit jingle où ils te disent « La semaine prochaine, il y a ça qui sort ». Le Suyark n'est apparu dans aucun Gaumont.
Déjà, mais il y a ça aussi. Le problème, c'est que le film a été quand même peut-être à 80-90% exploité en 3D. Et les gens, en général, maintenant, font sans comprendre vraiment pourquoi d'ailleurs. Un rejet total de la 3D.
Oui, ça dépend. S'il y a un Marvel quelconque qui sort, ils y vont quand même.
Je sais pas pourquoi on fait un rejet. Moi qui n'ai pas de carte de cinéma, parce que c'est 12 euros le tarif normal et 14 euros en 3D.
Ça a un autre sens aussi. Parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui ne vont pas voir les films parce qu'ils sont pas en 3D.
Ah bon?
Ah, mais je te jure que c'est vrai. Ils sont en beaucoup plus minorité.
Ah oui?
Ils sont.
Il y a des gens qui vont au cinéma juste pour voir des Marvel. Mais c'est vrai.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour côtoyer quotidiennement, il y a des gens, tu as beau leur expliquer, ouais, mais ce film-là, le tueur, en l'occurrence, la 3D, elle est vraiment, enfin la mise en scène est vraiment pensée pour la 3D, t'auras pas mal à la tête, il y a des plans qui sont géniaux et tout ça, il dira ouais, mais non, la 3D, c'est chiant. C'est...
Mais parce qu'en fait, ils sont... voilà. C'est pas un critère pour eux.
Oui, mais après, il y a.
Non, c'est pas un critère.
Non, mais c'est un rejet. C'est
eux, les gens, ils veulent. Il y a des gens qui veulent aller au cinéma juste pour se vider la tête comme
ils disent. Non, d'accord, mais je suis d'accord, mais pour eux, c'est la 3D, c'est un truc qui fait mal à la tête.
Avec la vie d'entre
eux.
C'est bien.
Même pour se vider la tête, il suffirait de voir une bande-annonce avec quelques grosses scènes d'action du tueur. Pour donner envie même à un spectateur lambda.
Je crois pas, honnêtement. Alors, je dirais non, mais franchement,
comme j'aime bien les gens
Joss Whedon fait mieux.
Comme voilà, j'aime bien les gens qui lèvent la main pour prendre la parole.
Ah oui, bah oui.
Justement, pour retourner au débat initial, pourquoi le cinéma français peut fonctionner dans les pays asiatiques et pas et la réciproque, non? En fait, moi qui côtoie des étudiants justement asiatiques en cinéma en France exactement, si le cinéma fonctionne en Asie, c'est à cause surtout de l'image de la France. Enfin, c'est surtout parce que eux, il y a Truffaut, Godard, nanana. Et si je vous leur propose un film français, pour eux, ça sera le descendant
de c'est Amélie Poulain 2, quoi.
Voilà, ce sera le descendant de ces films-là, c'est ou bon. De Jeunet, ou des
films. Oui, non,
mais
non.
Peu importe la qualité du film, ils iront voir le film parce
là,
que c'est
là,
français.
Tu parles de cinéphile, mais si on parle de cinéphile
non,
français.
Non,
on peut se dire le cinéma japonais, c'est Kurosawa.
Mais les gens connaissent même pas.
Oui, mais les gens ne connaissent
pas. Mais personne connaît
Kurosawa.
Mais
Victor, justement, maintenant qu'il voit aussi pour les étudiants, etc., les grands plaisirs en cinéma, tu leur dis, je suis japonais, ils se disent, ah ouais, quoi, Naruto et Bleach.
Ah oui, voilà, c'est
bah
ça.
Non,
oui.
C'est pas ça. Enfin, ils m'en foutent de Kurosawa et de.
Non, mais c'est vrai,
de Koreeda.
Ils ne rendent pas compte que Ozu, Kurosawa, Mizoguchi, les gens, ils connaissent pas, quoi.
Les 7 samouraïs.
L'autre jour,
ils demandent aux gens de
non, les 7 mercenaires, ils connaissent pas les 7 samouraïs.
L'autre jour, j'ai parlé à un fan de Solution, c'est pas Ozu, par exemple. Un fan absolu de Solution, il dit, de Koreeda, j'ai fait, mais tu connais Ozu? Non, je connais pas Ozu. Enfin, c'est... les gens n'ont pas cette truc qu'on parle d'autres pays avec Truffaut et Godard.
C'est... Les gens, c'est asiatique, c'est manga,
c'est Bleach et Naruto.
Mais justement,
et, pour revenir au côté, un peu promotion, il y a quelques années, là, quand Besson avait sorti les gros films d'action, ça avait marché, quoi. Comme quoi, il suffit qu'il y ait quelqu'un.
Il y a une grosse machine.
Si, il y a l'effort qui est fait pour mettre. Alors, c'est pas plus accessible, t'as quand même de l'humour bien typé, même s'il y a des grosses scènes d'action. C'est pas.
Mais il y a sponsor Besson.
C'est ce que je dis quand il y a.
On arrive à matraquer. Le débat initial, c'est que des films, par exemple, comme celui de Kurosawa, vers l'autre rive, celui de Naomi Kawase, pour parler du cinéma japonais, donc Les Délices de Tokyo, je crois qu'il sort bientôt. C'est un film qui a. Qui peut potentiellement bien marcher. Or, ce sont des films d'auteurs qui sont a priori plus difficiles. Et de festivals, effectivement, mais qui attirent plus de monde.
Non, mais le Kawase, c'est une porte d'entrée aussi. Quoi. Il y a un petit côté exotique, il faut le dire. Il y a un petit côté, on va vous faire découvrir.
C'est ça, mais
ils n'ont pas les délices de Tokyo.
On n'a plus non plus de Chambara ou de films traditionnels qui sortent voilà, dans la production
globale. Ils ont leur légitimité en passant par le festival, en ayant des prix, ils ont une légitimité. En fait.
Non, mais en fait, le truc, c'est que.
Si les gens ne connaissent pas Kurosawa, est-ce qu'ils vont se dire, tiens, Naomi Kawase était à...
Tu veux dire Kiyoshi et Kurosawa.
Même Akira, je parle d'Akira.
Non, mais même Akira.
Et ils vont se dire, ce film était un certain regard à Cannes, donc je vais quand même aller le voir. C'est...
Ils disent, ah, j'ai lu Naomi Kawase dans Libé, genre, ah, s'ils en parlent, c'est qu'elle est intéressante. Alors qu'ils parlent jamais d'Akira Kurosawa.
Par exemple, Black Hole, plein de gens, enfin, je l'ai vu parce que c'était, il a gagné le truc à Berlin, tu vois. En fait, ce qui fait que les films comme Koreeda et Kawase passent, c'est ce qu'ils ont monté en festival, etc. Les trucs, c'est que si un film comme Bakuman ou, je sais pas, l'Attaque des Titans ou Transformers de Mickey sort en France.
Qui ont leur public de base, qui est là, parce que les mangas.
Et personne n'ira les voir, parce que les mangas sont sur du bolos.
Une adaptation en série.
Oui.
Et qui marche vachement bien.
En série animée.
Oui.
Absolument.
Qui marche vachement bien.
De quoi donc?
Le terme.
Le
film.
Oui.
On reviendra
à la tête. La série.
Mais il y
a un gros carton.
On reviendra à la tête des Titans.
Ce que tu dis sur cette problématique concernant, malheureusement, ce qui concerne le cinéma asiatique. malheureusement, ça concerne toutes les autres cinématographies.
Mais oui, oui,
bien sûr, les cinémas d'Afrique, les cinémas d'Amérique du Sud.
Il y a du cinéma,
par exemple.
J'allais dire la même chose.
Enfin, il y a des terroristes et des cinémas. Et donc, non, après, on en a un petit peu parlé, enfin, en aparté, quand. Pour comprendre que le problème malheureusement existe et perdure depuis longtemps. Et on va dire que les gens comme Godard, Truffaut ont fait légèrement quand même évoluer les choses. Mais Godard disait dans les années 80, et tu m'interromps si je me trompe, il disait « Je croirai en cette cohérence européenne le jour où je verrai un très mauvais film hongrois à la télévision. » Au lieu de voir un très mauvais film américain, voir un très mauvais français. Alors, donc, c'est les années 80, on est en 2015... Il y a eu quand même ce qu'on appelle l'évolution de la détectologie. Enfin, on a la capacité de voir tout. On peut tout voir maintenant, au jour d'aujourd'hui, grâce à l'Internet. Mais le problème est toujours là. C'est un problème de distribution.
C'est un problème de curiosité aussi.
C'est quand il y a 15 à 20 films par semaine qui sortent, quand tu vois qu'il y a... Je me rappellerai toujours de cette anecdote. C'était, je crois, fin des années 90. Il y avait un film de Mike Lee qui était sorti. Juste, c'était le film qu'il avait fait juste après sa Palme d'Or. La Palme d'Or, c'était
Secret et mensonge.
Il avait fait le film juste après, c'était Topsy Turvy. Ah oui. Vraiment un film extraordinaire. Il est resté 3 semaines. C'est un film anglais, hein. C'est pas un film béninois ou un film japonais. C'est un film anglais qui était. Et le réalisateur était extrêmement connu du grand public parce qu'il avait eu à ce moment-là la Palme d'Or avec Secret et mensonge, alors qu'il avait fait plein de films avant, hein, Naked et tout ça. Mais voilà, il avait eu la Palme d'Or et ça n'a pas empêché que l'autre film, Topsy Turvy, est un film qui est resté 3 semaines d'exploitation. Et c'était la fin des années 90, c'est pas en 2015. Donc j'ai envie de dire que malheureusement, c'est un problème qui perdure et qui continue. Et puis, vous êtes en train de parler, là c'est le côté un peu provoque, hein, vous êtes en train de me dire, oui, c'est pas normal, il y a les gens qui savent pas c'est qui et qui, mais c'est la même chose aussi pour d'autres cinémas. Après, on peut jouer à ce jeu-là. Je pourrais dire, est-ce que toi tu connais Michel Eisen? Est-ce que tu connais un tête? Ah bah non, je connais pas. Ah bah tu vois, tu l'as dans le cul toi aussi. Enfin voilà, c'est...
Après, ça va être l'empereur du cinéma, c'est pas rien.
C'était François Truffaut qui disait, moi j'ai très très peur qu'un jour il y ait un critique de cinéma qui parle de mes films sans avoir vu du Murnau. Et Scorsese dit 20 ans plus tard, moi j'ai très peur qu'un critique de cinéma parle de mes films sans avoir vu ceux de Truffaut.
Voilà, on est effectivement dans cette problématique, Elias, quand tu parles de gens qui sont fans de Sous-Notion et qui ne connaissent pas Ozu par exemple. C'est effectivement ça, le fait
c'est
que...
C'est une question de temps, ça viendra.
Non, non, ils remontent le fil. Mais justement, non, ils ne remontent jamais le fil, parce qu'ils restent campés sur leur truc.
Je pense que un cinéaste comme Sous-Notion peut...
C'est une porte d'entrée, oui. Comme Tarantino l'a été aussi.
J'ai espoir là-dessus, quoi. Comme des gens comme Sous-Notion ou...
Mais c'est pas tous les jours qu'il y a des
donne envie de s'intéresser, enfin... à ce qui crée leur cinéma.
Mais après, c'est parce que toi, tu crois en la curiosité des gens, quoi.
Je pense que la curiosité, c'est un truc qu'on retrouve un peu partout, quoi. Enfin,
Elias,
ça m'intéresse. Mais enfin, les gens ne sont pas curieux. Je vois ceux que je vois au jour le jour, je suis en fac de cinéma. D'accord, enfin, je suis en première année. C'est
vrai,
t'as beaucoup de branleurs qui sont là, qui savent pas ce qu'ils font là. Voilà. Mais ils sont en première année. Pour moi, c'est ça. Et l'autre jour, je parlais avec un mec qui me fait ton film préféré, c'est Old Boy. Je fais ouais, c'est Old Boy. Il me fait ouais, ton film préféré, c'est Old Boy. Je réponds, c'est mon film préféré, etc. Il me fait ouais, c'est lourd. Et je fais mais tu sais ce que c'est? Enfin, tu sais d'où il me vient, etc. Il me fait non. Le mec pensait que Old Boy c'est un film japonais. Par exemple.
Mais les mecs, tu vois, il a mon âge,
il ne s'est pas renseigné, il ne sait pas.
La curiosité, c'est qu'on la retrouve un peu partout.
Il n'a pas cherché ce que c'est, il n'a pas cherché d'autres films, il n'a pas, il ne sait pas. Les gens voient des films, ils
peuvent les poursuivre. Tu es tombé sur quelqu'un, tu n'es pas tombé sur des gens.
Il y a plein de gens, c'est pas le premier joueur.
Juste pour reposer le sujet, c'est-à-dire à quel point les cinémas que l'on peut voir aujourd'hui peuvent éveiller une curiosité pour aller soit vers le passé, soit vers d'autres médias. En France,
on a beaucoup plus de possibilités d'être curieux en France.
Oui, bien sûr.
Déjà, on a la possibilité. On a énormément de chance en France de voir. On a une pléthore de films qui vient de tous les continents, de tous les continents. On a beaucoup plus de chance dans ce pays de voir des. Mais le paradoxe, c'est que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de personnes qui veulent aller voir ces films. Non, parce qu'il y a aussi la presse, il y a aussi les distributions, il y a tout ça.
Le problème, c'est que j'ai l'impression que t'as tout à fait raison quand tu dis que. En France, on est quand même vraiment privilégié
très
pour avoir accès à la culture.
On parle de cinéma, là je parle de cinéma.
Cinéma, mais même d'autres, même les autres. Je pense qu'il y a, la curiosité est quand même là, sauf qu'elle est latente. Je pense que justement, paradoxalement, comme tu dis, peut-être nos gouvernements ou les systèmes, enfin nos systèmes, que ce soit dans le cinéma ou là, n'essayent pas forcément d'éveiller la curiosité des gens. J'ai l'impression que ça les arrange.
Non, mais après, c'est les gens aussi.
Peut-être que les gens ne soient pas curieux. Et on n'essaye pas d'éveiller cette curiosité.
Les gens, ouais. On a tous les moyens d'aller
tout
voir.
Tout à fait.
En fait, il faut leur donner envie aussi.
Chacun fait selon son besoin. Par exemple, là,
aujourd'hui. Parce qu'il y a deux débats.
Non, mais tu sais, je suis né en 93, j'ai grandi dans le 93. J'ai grandi en banlieue. C'est pas pour ça que je voyais pas les films, quoi. J'avais pas en cité, quoi.
On va écouter Marc qui a fait
tout rire ton podcast.
En fait, c'est que. Chacun a sa curiosité. Par exemple, quelqu'un qui peut s'intéresser au cinéma des années 60 et tout ce qui était au cinéma de la rébellion, etc., il va regarder les films français, etc., mais il va se dire, putain, au Japon, il y avait carrément aussi exactement la même chose, une même nouvelle vague. Mmh. À ce moment-là, il va regarder les films d'Oshima, il va regarder les films de Wakamatsu, après, il va passer à regarder plein de films qui ont été tournés dans la même période. Il va se dire, bon, je vais remonter le film, je m'intéresse au cinéma japonais. Il va regarder du Fukasaku. Au bout d'un
il
moment,
va mettre
Énergie
et puis il va mettre TF1.
Non, après il va se dire, je vais regarder un truc plus contemporain. Il va regarder du Shunji Iwai, ensuite il va regarder du Kitano, il va regarder du Mickey, du Sonotion, etc. En fait, tu remontes le film. Et au fur et à mesure, tu rentres dans une dynamique où en fait, un film en appelle un autre parce que tu dis, ce cinéaste-là a été influencé par un tel, je vais voir cette
personne-là. Samir.
Non, il faut que je recadre direct lui, avec en face de moi. Tu parles d'énergie.
Alors, lui, c'est Jérémy, parce que voilà, Jérémy, on n'a pas de vidéo.
En fait, ce qui est c'est très intéressant ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que moi, j'écoutais énergie dans les années 80, début 80. Et j'écoutais, il y avait du Bowie qui passait, mais quand j'ai du Bowie, c'était par exemple Station to Station, et c'était la première chanson de Station. Donc Station to Station qui dure plus de 10 minutes. Et c'est là que moi j'ai découvert Lou Reed, Bowie, tout ça. Donc c'est voilà.
Mais moi je te parle d'énergie parce qu'après
c'est vraiment aujourd'hui.
Oui, mais ça n'existe plus l'énergie comme ça. C'est là qu'on pourrait se poser la question aussi. À l'époque, dans les années 60 et 70.
Plus de gens que tu crois.
Dans les années 60 et 70, aller voir un film d'Alain René ou je sais pas moi, un film d'Alain René ou d'un autre cinéaste qu'on joue. Enfin, il n'y avait pas cette classification à l'époque de cinéma d'auteur. Ça n'existait pas. Ça.
Bah juste, mais c'était bien, quoi.
Enfin, c'était cinéma, point final. Voilà. Auteur, ça ne veut rien dire.
Comme maintenant, il y a des milliers de catégorisations.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait que, malheureusement, toute cette catégorisation a fait que c'est devenu communautariste. Ah oui. Et voilà. Donc, quand tu demandes à quelqu'un d'aller voir un film de ce notion, c'est je sais pas, je connais pas d'où il vient, je sais pas, j'ai pas confiance.
C'est exactement ce que je disais.
On peut pas aller voir les films de ce notion.
Parce qu'on en entend
pas. Parce que les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas, ils sont pas curieux.
Donc tous les films ne naissent pas libres et égaux en droit, comme disait aujourd'hui, comme disait autrefois Bazin.
En fait, moi, je voulais te rappeler ce que j'ai entendu dire, que tu m'as dit quand j'ai dit les gens sont pas curieux, ce qui est certes une hyperbole que j'avais pas dû dire. Tu as dit par exemple, tes parents sont pas curieux. Du coup, c'est français. En fait, un truc aussi. Pour revenir au sujet du cinéma asiatique et sa considération dans le cinéma actuel, par exemple, il m'est arrivé, sous les conseils d'ailleurs de Kefren, l'autre jour, je regardais un film de Isayasu Sato, qui s'appelle Hanadama, que j'ai adoré. Et c'est en fait, pareil, j'ai aussi vu, du coup, je me suis fait une petite séance de cinéma lui, par exemple, plusieurs kills, etc., et beaucoup de ces films. Et mes parents qui savent, ils me disaient, mais pourquoi tu n'aurais pas plutôt du René ou du Truffaut? Je trouve qu'il y a un snobisme en fait du cinéma asiatique qui fait que ces cinémas n'est pas considéré comme classique par personne.
Mais ça c'est dans tous les cinémas, c'est pas que le cinéma.
Non mais il y a par exemple Pasolini, c'est génial. Ou par exemple des cinéastes comme
parce que c'est européen, Lover,
on me dit c'est génial les cinéastes américains, les cinéastes.
Mais c'est occidental, voilà.
C'est aussi une question générationnelle. Il y a eu de la part de la génération précédente. un cinéma un peu voilà officiel
c'est
la nouvelle vague
qui était la découverte c'est quoi ton truc de même quoi, on a dit ça une fois
et d'une certaine modernité Antonioni
voilà c'est ça
voilà c'était aussi un cinéaste classique. Ensuite il y a eu une catégorisation par genre, une spécialisation de plus importante dont aujourd'hui j'ai l'impression qu'on attend des limites, c'est-à-dire que il y a les spécialistes de sous-notion, mais est-ce qu'il y a encore des gens pour parler de Bergman ou pour parler d'Antonioni? C'est un peu la question que tu évoquais.
Mais
justement, dans cette catégorisation
de
spécialisé dans le cinéma d'Amérique latine, spécialisé
La question, c'est de savoir est-ce qu'il existe aujourd'hui, et il existe, j'en suis persuadé, la preuve, nous sommes là. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent parler de cinéma d'Asie, mais aussi d'avoir la même curiosité pour parler de cinéma d'Afrique ou de cinéma.
Oui, c'est bien.
Et puis c'est une curiosité en fait, c'est qui se cultivait avant parce que maintenant il y a plus d'offres que jamais, mais ça crée des niches. Mais avant, c'était une curiosité qui se crée par des canaux plus populaires. Si vous êtes curieux, à tomber sur un télé 7 jours. Soit remonter si loin, mais juste des années 90. Et vous regardez, vous hallucinez les grilles de programmes, même des films proposés. Quoi. Genre en prime time, des choses qui pouvaient être proposées, serait-ce que dans les années 90.
C'est exactement ce que dit Samir sur énergie, c'est-à-dire que les cultures populaires, les cultures élitistes, ce qu'on considère maintenant comme culture populaire et culture élitiste, cette distinction n'existait pas il y a 30 ans. Donc effectivement, on fait 7 jours. Vous pouvez parler d'Antonio Nuno, de l'énergie, vous pouvez écouter Kéfren.
J'aimerais parler des deux sujets, mais d'abord sur le sujet de ce qu'il a dit sur la curiosité. En fait, je sais pas si c'est un truc de génération, mais en tout cas, nous qui on est plus jeunes et qui avons vécu à l'heure où il y a toujours existé Internet, que des gens ne connaissent pas, par exemple, Akira Kurosawa. C'est un scandale, enfin, je veux dire, nous on l'a apporté de clic, je veux dire, c'est pas un truc, même si je le connais pas, je le tape sur Google sur mon portable. Non, mais même on me le dit, si je suis vraiment curieux,
c'est un scandale. En fait, c'est
du ça devrait être un scandale pour tout le monde.
Mais oui,
c'est ce que disait Martin, c'est une question de culture générale.
Oui, mais
attends, mais je veux dire, les fans de Star Wars qui ne connaissent pas.
Kefren, juste une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, je me rendais à un dîner chez une amie et j'étais en train de lire l'autobiographie de Kurosawa, justement. J'étais en train de la relire pour écrire mon article un peu plus tard. Et à côté de moi, il y a un jeune homme qui est en train de jeter par-dessus mon épaule et regarder. Et je lui montre la couverture. Je lui dis, voilà, je suis en train de lire un bouquin sur Kurosawa. Ah bon, c'est qui? J'étais un peu étonné. C'est un grand cinéaste japonais et tout. Ah, j'ai jamais entendu parler. Je lui dis, vous savez, il a quand même réalisé des grands films et tout, et notamment, il y a eu pas mal de remakes qui sont connus. Je lui dis, ah bon, lesquels? Je lui dis, vous avez déjà vu les sept mercenaires? Ah ouais, c'est un bon western. Bon, je lui dis, avant d'être un bon western, c'est un bon Shambara, et ça s'appelle Les Sept Samouraïs. Ah, ok. Bon, vous aimez ça, Julian? Oui, pour une poignée de dollars. Bah, vous savez que pour une poignée de dollars, c'est un remake de Yojimbo. Ah, j'étais pas au courant. Et puis là, le coup de semonce, Star Wars. Vous avez vu Star Wars? Tout le monde a vu Star Wars. Oui, bah Star Wars, c'est un remake de La Forteresse Cachée. Oh, c'est pas vrai.
Eh ben, c'est très bien. T'as transmis quelque chose.
Exactement. Et le mec, il a noté.
Pour pas avoir cette réaction. Putain, vous connaissez pas.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ont cette réaction si tu dis que t'as pas vu Star Wars.
Éveiller la curiosité.
Il a pas vu. On peut pas tout savoir.
On ne s'entend plus, s'il vous plaît.
Si tu dis que t'as pas vu Star Wars, t'as cette réaction. Comment t'as pas vu Star Wars? C'est parce que c'est. Alors que si tu lui dis, tu sais, tu connais pas qui Akira Kurosawa.
Mais bon, c'est un jeu. Non, mais parce qu'on va se
rendre compte. Kurosawa, il faut aussi voir les influences de Shakespeare.
Faites attention parce
que. Oui, les influences de Shakespeare. Et Yojimbo, ça s'inspire aussi de, par exemple, La Moisson Rouge de Chalamet.
Oui, mais réagir ainsi, vous êtes dans l'élitisme.
Il y a un côté
ça me fait peur. Je suis pas du tout d'accord parce que, effectivement, dire que t'as pas vu Star Wars, c'est tu fais pas partie. Du monde d'aujourd'hui. si on dit t'as pas vu Kurosawa, c'est, on va nous dire bah non, quelqu'un va réagir.
Comment tu réagis, Victor?
Mais c'est vachement élitiste de dire t'as pas vu les 7 samouraïs. Pourquoi c'est élitiste de ne pas
c'est élitiste d'avoir cette réaction de dire voilà, le mec ils connaissent pas tel film alors qu'ils ont aimé tel autre film.
Star Wars, de dire Star Wars.
Moi, tu peux me parler de trucs je sais que tu es extrêmement pointu dans la cinématographie asiatique. Il y a des choses que tu vas. Regarde cette notion, je ne connais pas. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question. J'étais très sincère.
Oui, mais d'un gueule.
Mais si par exemple un de vous deux m'aurait dit comment toi tu connais pas cette notion d'une manière très, je l'aurais mal pris.
Donc on t'aurait jamais fait ça voilà. parce que
vous avez peur de moi déjà. Et puis surtout, voilà. Non mais très sincèrement, l'anecdote est très intéressante ce qu'il a fait. C'est remarquable ce que t'as fait. Voilà, t'as dit voilà il y a ça, t'as contextualisé la chose, c'est très bien. Après moi ce dont j'ai peur c'est comment. Mais tu l'as pas fait, c'est très. Enfin, moi je trouve que c'est très bien, mais c'est après comment tu pourrais réagir avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi et lui faire comprendre que t'es un peu con quand même de ne pas connaître ça.
C'est pas,
ça.
C'est pas du tout.
Oui, mais
ça,
c'est ça qui est un peu qui ressort là.
De moi, je
voudrais réécouter le podcast, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça qui ressort.
Mais j'ai la raison que tu fais le film un peu à l'envers. C'est-à-dire que c'est.
Franchement, réécouter, c'est un peu ça qu'on entend.
Connaître Kurosawa, s'intéresser à Kurosawa aujourd'hui, c'est comme avoir lu Dostoïevski ou Hugo. C'est quelque chose qui fait partie de la culture générale.
On est tous des Martin Eden à un moment ou un autre.
Et si on
tous,
dit hein, pas, on va dire ouais, mais si tu reproches à quelqu'un de ne pas connaître Victor Hugo, pour moi c'est un manque de curiosité. Après, mais quelqu'un ne pas, son... pas forcément.
Mais en fait, t'as pas à lui reprocher.
Faut pas lui reprocher, mais par contre, faut lui donner la porte d'entrée en été pour pouvoir.
Et le fait de dire que tout le monde devrait connaître Kurosawa ou Hugo ou Dostoïevski, ce n'est pas être élitiste. C'est juste quelque chose.
Oui, mais tu peux pas lui reprocher, en fait.
Tout le monde n'a pas à connaître Kurosawa, Hugo.
Tout le monde a à connaître Kurosawa. Écoute, voilà.
Si l'humanité serait mieux à connaître Hugo.
Moi, mes profs m'ont fait détester Victor Hugo. Enfin, moi aussi. Victor Hugo. Enfin, vraiment dégoûté de cette littérature-là.
Oui, mais tu l'as lu.
Non, je l'ai pas lu.
Non, mais t'as lu des trucs de Victor Hugo.
Oui,
non, mais tu sais Victor Hugo, tu connais Victor Hugo.
Mais c'est juste que t'as pas lu Victor Hugo.
Vas-y, ne parle plus, quoi.
C'est juste que, en fait,
mais toi, tu es dans la catégorie d'avoir lu.
Non, mais en fait, le problème, excuse-moi, je t'ai coupé. Le problème, c'est pas de ne pas connaître ou de. C'est de ne pas être curieux, de ne pas vouloir
aller. Mais pour être curieux, quoi qu'il arrive, pour être curieux, à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui fait qui va être le passeur. Quoi qu'il arrive,
Nicolas, je te laisse la parole.
Pour moi, le problème, il est fondamental et il est fondamental par rapport à notre système éducatif aujourd'hui, tout simplement. C'est-à-dire que l'éducation nationale, tout ça, la façon d'enseigner, d'ouvrir l'esprit des gens aujourd'hui qui sont à l'école ou à n'importe quel niveau, moi je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est qu'on n'est pas assez ouvert sur la culture en général, déjà quand on est jeune à l'école.
Et, alors, je pense pas que ce soit à l'école, parce que franchement j'ai des amis profs qui...
Non mais il y en a qui sont...
Non mais qui sont le programme, bien. Même le programme, il est ouvert sur ça, sur pas mal de trucs. Ouais, le problème, c'est plutôt au niveau des médias, au niveau de ce qu'on a...
J'ai un ami, par exemple, qui est...
Ne savent pas forcément enseigner.
Non, oui.
J'ai un ami qui est prof, qui va donner des cours de cinéma à des lycéens. Moi, ça... Il suit une formation.
Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez.
On lui parle de... Il a par exemple, une formation autour de Mamoru Osada et des enfants loups, donc qui va transmettre. Après, le problème qu'on retrouve, c'est effectivement le problème que soulevait Gaël, qui est qu'à partir du moment où quelqu'un comme Mamoru Osada va devenir institutionnalisé, va devenir institutionnalisé, il va y avoir un éventuel rejet, effectivement, parce que ça
non,
fait partie
c'est pas,
de l'école,
c'est pas,
de
l'institution. Moi, je parlais pas de ça. C'est de la façon dont on se retrouve devant des enseignants qui sont juste incapables. Enfin, juste ça. Qui ne comprennent pas l'œuvre du départ, en fait.
C'est un problème de formation au niveau de l'éducation nationale.
Voilà.
Les générations de profs se renouvellent aussi, quand même.
Parce que, moi, des jeunes profs, absolument. Hugo, j'ai appris à aimer, enfin, plus tard. Mais c'est la façon dont on a essayé de me l'imposer. Enfin,
oui, mais c'est l'école en même temps, on va t'imposer une lecture.
Moi,
c'est normal par moment.
Mais c'est pas un problème de rejet. C'est la façon dont c'est enseigné qui est.
Voilà. Même sans parler de. La façon dont c'est évalué aussi. Moi, par exemple, l'année du bac français. On t'essaye de te faire lire plein de livres à la chaîne pour que tu aies
25
ou 30 livres dans l'année à la fin pour un oral à la con de 20 minutes. Et au final, c'est un espèce de sprint permanent tout le long de l'année pour lire le plus de livres possible sans forcément les analyser, les expliquer, les machins. On les fait à la chaîne. Et tout ce système-là.
C'est un mec qui a eu 4 au bac français.
J'ai eu 15, je suis tombé sur Voltaire. J'ai la chance, c'est l'auteur que, un des auteurs que je peux faire.
Tu es tombé sur Candide, c'est ça?
Voilà.
On parlait justement des
ensuite, on va revenir sur le cinéma.
Laisse tomber, ce n'est pas.
On est parti au fondement.
Attends, pour parler du système d'éducation, si les profs donnent envie ou pas, la curiosité, etc. Moi, je sais pas, mais peut-être que les profs n'ont pas d'audace personnelle. Mais quand on montre qu'on est curieux, on nous donne ce qu'on a. Enfin, moi, quand j'étais en première, justement, et que j'ai passé mon bac de français. Mon prof de français, voyant que j'étais curieux du cinéma, m'a dit aujourd'hui, voilà ce que c'est le cinéma, et regarde ça. Et ce qu'il m'a donné, c'était I Saw the Devil et The Chaser. Et à l'époque, c'était en 2010, justement. Et il m'a dit, regarde ça, c'est ça le cinéma aujourd'hui. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma coréen, en fait. Et j'ai regardé tout ce qui s'en suit.
Pour faire un peu une conclusion sur l'éducation nationale, etc. Je ne le porte pas forcément dans mon cœur. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir si les profs sont pas aussi un peu dépassés déjà par leur environnement professionnel, par toutes les contraintes qu'ils ont
d'ailleurs à
un moment donné, alors il y en a certes, évidemment qu'il y en aura toujours des bons qui vont donner des conseils, qui vont essayer d'éveiller la curiosité.
Des bons quand même,
ils sont pas tous.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il suffit d'avoir la curiosité.
Non, mais ce que dit Jérémy est assez important, c'est la curiosité.
C'est la curiosité qui a.
La curiosité de quoi?
Ouais. Parce qu'en fait, si j'ai
la curiosité,
ça
va.
Et effectivement, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Jérémy, parce qu'on va un petit peu recentrer sur notre domaine en parlant de l'éducation.
C'est dans politique et les gouvernements, là.
Effectivement,
et donc, François Hollande, mais voilà. Cinéma,
non, mais le traitement est aussi médiatique, et le manque de curiosité générale qui peut être aussi dans le traitement médiatique.
Juste pour, en fait, il y a juste Elias. Un truc aussi que je voulais dire qui me semble, en fait, je viens de penser à ça, qui est plutôt pertinent. Enfin, je sais pas ce qu'on peut en dire, mais bah, je trouve qu'il semble pertinent. En fait, c'est que j'ai un prof d'analyse génial en cinéma cette année à Paris 3, qui fait un. Voilà.
Et
Louis Dobresse. Il est vraiment génial. Et en fait, ce prof passe des exemples pour montrer des types de cinéma de tous les pays aux gens. Il a montré, et en fait, on l'a mis en cours, il a montré le cinéma de Tsai Ming-liang pour montrer un plan lent. Après, il a fait Gaspard Noé. Après, il a fait. On a vu genre un quart d'heure en cours de Infernal Affairs. Et à la fin de la cour, je vais parler, genre, monsieur, en fait, c'est génial, etc. Il me dit, j'en ai juste marre en fait que je vois montrer des plans de temps en temps, entre chaque plan, des trucs de Bienvenue chez les Ch'tis ou de Star Wars pour que les élèves s'endorment pas en fait. Donc je sais pas ce qu'on peut en dire, mais c'est juste une anecdote.
C'est juste la classe qui est une bande de
nier. Non. En première année de cinéma, par exemple, quand tu vas à Paris 3, ils font cinéma, mais en fait, ils ne savent pas pourquoi ils font cinéma.
Ils ont 18 ans, arrêtez.
Non, mais ils ne connaissent
pas. Il y a plein de gens, à 18 ans, c'est pas ce
qu'on veut. Non, mais tu ne sais. Si tu veux faire ça, à la base, si tu choisis la fac de cinéma, c'est que tu as une passion pour le cinéma, tu t'es intéressé un petit peu au cinéma.
C'est pas si simple, je suis arrivé en fac d'histoire-géo avec des gens qui étaient nuls en histoire et qui ne comprenaient rien.
Non, mais le cinéma, c'est pas pareil.
J'ai hésité entre histoire-géo et histoire et cinéma.
Et
d'ailleurs,
pour l'avoir fait, c'est pas si simple.
Moi, cinéma, parce qu'en fait, si on commence à parler des facs de cinéma, ça va être un autre podcast.
Juste pour revenir sur la question de la curiosité, je vais élargir un peu le truc. Et non, non, mais juste.
Je repense à des années plus fades, pardon, excusez-moi.
Pour élargir et balancer un petit truc un peu polémique comme ça, est-ce que maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, est-ce que ça arrange le système, le gouvernement?
Il y a les Chinois du FBI.
D'habitude, c'est Gaël qui les
arrange. Ah, c'est quoi ça?
Ça les arrange bien.
Parce que faut reconnaître que pour ce genre de gouvernement de ça, les gens curieux, c'est chiant. Les gens qui veulent, c'est chiant, je suis désolé.
On les enferme, pas au goulag.
Si ça peut vous rassurer, ça fait 3 siècles que les écrivains dégrive le manque de curiosité des gens.
Justin,
pour conclure sur ce sujet, et on va enchaîner sur autre chose. Sur Tarantino.
Et puis non.
Plusieurs discussions en même temps, par contre, on va.
Et puis avant, de toute façon, tous, je pense, avant d'aller au classique du quelconque du cinéma asiatique, on est tous passés par une passerelle de films européens qui avaient une influence ou caucase. Et aujourd'hui, juste les classiques occidentaux, de toute façon, la diffusion
niveau grand public, c'est pareil. On parlait des 7 samouraïs. Le 7 samouraïs, est-ce que ça... les 7 samouraïs, je veux dire, les 7 mercenaires, je pense qu'on est pas mal à voir. Est arrivé aux 7 samouraïs par les 7 mercenaires. Les 7 mercenaires, ça passe plus à la télé. Juste...
Oui. Avant, ça passait tous les ans.
Avant, là, il y avait le Eddie Mitchell et compagnie. Donc, on tombait dessus. Après, il suffisait de regarder un peu. Le programme télé, oui, c'est un remake du
Sukai Kurosawa.
Maintenant,
il y a toujours des
même les classiques de base occidentaux.
Ne passe plus à la télé.
Voilà, donc même les classiques, même les classiques déjà occidentaux qui pourraient être une passerelle vers les classiques.
Parce que la télévision, culture. La télévision, tout le monde a la télévision pratiquement aujourd'hui. Tout le monde ne se paye pas un abonnement au cinéma.
Non, mais avant ça passait sur France 3.
Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui regardaient, en France en tout cas, la dernière séance ou le cinéma de minuit.
Dernière séance, ça passait le jeudi à 20h50. Jeudi 20h50. Dernière séance, c'était jeudi soir ou lundi soir, 20h50.
Tu regardais ça religieusement.
Tu regardais ça comme tu regardais un Spider-Man qui passait.
C'est là où les gens découvrent des choses. Enfin, Internet,
Justin, je te dis vraiment,
pas par la télévision, enfin, je pense que je fais.
Justin, je te dirais aussi qu'aujourd'hui, il devrait y avoir d'autres passerelles. Ouais, par exemple, Kurosawa, tu peux y arriver par l'animation. Il y a eu une adaptation des 7 samouraïs.
Oui, mais ça reste déjà une niche, l'animation de base. Niche. Mais je te parle de 7 samouraïs, 7 mercenaires.
Vont aller vers les
7 samouraïs. Il y a plus de chances, je sais pas. Mais un grand film, grand public, où par hasard tu vois que c'est un remake d'un autre, t'as plus de chance quand même qu'il se passe à 20h50, ce qui touche beaucoup plus de monde. Forcément, c'est
un monde. Les gens vont connaître les 7 mercenaires, comme le disait Martin tout à l'heure, et pas forcément aller.
Mais il y a plus de chance si c'est une diffusion grand public que si c'est dans une.
Mais pourquoi ils ont fait les 7
Pourquoi avant ça marchait?
Parce qu'ils savaient que.
Ils n'ont pas un public qui va aller voir.
Et c'est encore aujourd'hui en 2015, c'est la même chose.
On refait. Voilà pourquoi Scorsese a refait les Infiltrés, parce que.
Absolument.
Parce qu'on n'ira pas regarder Internet Achat, parce qu'il y a des Asiatiques dedans et que c'est plus fabuleux d'avoir des.
Non, parce que c'est sous-titré, mon cher.
Oui, aussi. Parce qu'ils ne veulent pas lire.
Pour revenir à quelque chose de très grand public,
le problème, c'est que les deux films sont géniaux, quoi.
Marc,
aujourd'hui c'est l'anniversaire des 3 ans de la mort de Kojima. Par exemple,
j'ai appris la mort de Kojima, je suis dévasté.
Je suis en train de penser à ça. Ça fait longtemps que l'Empire des Sangs n'est pas passé à la téloche, quoi.
Avant, il passait sur France 3, il passait au moins une fois tous les deux ans.
Il faut arrêter avec France Télévisions, ils sont en déliquescence totale.
Ah oui, mais à l'époque,
c'était eux qui. Même
TF1 et Arte, ils l'ont passé à la
télé. Il y a 3 ans.
Oui, il y a 3 ans.
Ça fait un peu vieux con, là, de notre temps.
C'était mieux avant, excuse-moi.
Je souligne, et je pense que les auditeurs de ce podcast l'ont compris, il y a plusieurs générations aussi dans ce podcast. Donc c'est vrai que c'est.
Mais non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles.
Et donc il y a plusieurs points de vue sur ce qui est passé. Alors je propose que nous fassions, après cette partie sur l'état du cinéma asiatique en Asie et en France en 2015.
On continue encore de parler.
Pardon. Et l'éducation nationale.
Et le gouvernement aussi.
Un bilan général. Et on va voir
où ça va nous
mener sur le cinéma d'une manière globale.